Ça tourne.
26 répliques sont seules.
Coupé.
Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes. D'ici d'aujourd'hui, de demain, nous sommes aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous allons au cinéma le mercredi. Alors, on peut y aller tous les jours, hein, mais on peut y aller aussi beaucoup le mercredi parce que le mercredi, il y a des nouveaux films, donc c'est vachement bien. Et le mercredi aussi, parfois, il y a les films qui restent encore un petit peu de la semaine d'avant ou de la semaine d'avant et qui vont très vite partir, donc c'est le moment. Bref, tout ça pour dire quoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai rencontré, grâce à l'Omnia, bien sûr, grâce à Jean-Marc et à Hervé, qui programme et dirige, s'occupe avec brio de cette salle de cinéma en centre-ville de Rouen, j'ai rencontré Judith Davis et j'ai eu la chance de découvrir son film qui est tout frais, qui est tout bien, qui est tout bon, qui est tout beau, qui nous sort là maintenant, comme s'il était d'une pure actualité. Tiens d'ailleurs, en fait, vous le savez, de temps en temps, je vais rencontrer des professionnels du cinéma, des gens pas professionnels, des amateurs, des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas, des gens qui sont du cinéma et des gens qui n'y sont pas du tout, des enfants et des adultes. Et j'ai rencontré des gamins, il n'y a pas longtemps, et je leur ai demandé... Comme je pose souvent cette question à plein de personnes, mais pour vous le cinéma, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Et puis finalement, si on devait donner une lettre de l'alphabet pour le cinéma, qu'est-ce que ce serait? M?
Comme message.
Parce que les films passent tous un message?
Oui, tous.
Alors les films doivent-ils tous passer un message? C'était tellement évident, c'était tellement spontané de la part de ces enfants que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit, tiens, on va peut-être faire une émission spéciale qui serait sur le cinéma et la politique. Alors évidemment, c'est pas mis en parallèle, hein. La politique dans le cinéma, comment est-ce qu'un film devient peut-être outil de politique? Du coup, après, je pense qu'une émission ne suffira pas, parce qu'en fait, ça s'appuie évidemment, je m'appuie dans cette émission-là du jour sur le film de Judith Davis, Tout ce qu'il me reste de la Révolution, mais il y a plein d'autres films qui sont, d'ailleurs certains en ce moment à l'affiche. Vendredi prochain, là, à l'Omnia, il y a une avant-première du dernier film de Ruffin sur les Gilets jaunes qui s'appelle Je veux du soleil, et j'ai très envie de vous en parler. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un film qui parle de politique, un film qui fait de la politique, et qu'est-ce que c'est qu'un film de propagande? Eh oui, la question mérite d'être posée. Je vous fais souvent le lien entre le journalisme, le documentaire, le film de cinéma. Et la question mérite vraiment de se poser. Quel est le point de vue à chaque fois de l'auteur et comment est-ce qu'il se positionne et comment nous, spectateurs, on peut prendre un message? En attendant, nous sommes allés rencontrer Judith Davis. Nous étions à l'Omnia et je vous laisse découvrir... ça.
Je voulais simplement vous dire que donc j'ai écrit le film, je joue dedans, je l'ai réalisé, je suis sur l'affiche, dans le hall, ça a l'air comme ça, d'apparence, très sur mes épaules, mais attention, ce méfait des apparences. En fait, il n'y a pas de film, il n'y a pas ce film sans plein de gens évidemment, mais sans beaucoup de collectifs humains qui se sont créés pour l'occasion de ce film, mais un qui existe depuis plus de 10 ans, qui est mon collectif que j'ai co-créé avec tous les acteurs du film que vous allez découvrir tout à l'heure. Ça s'appelle L'Avantage du doute, qui est un collectif d'acteurs, d'auteurs, de théâtre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure.
Ah oui,
mais c'est vraiment sous le signe de cette troupe et cette bande d'acteurs et de gens que j'ai envie de
mettre en
avant. De vous souhaiter très belle projection. Voilà.
Alors évidemment, elle met l'accent sur quelque chose de très important. Un film, ça ne se fait pas tout seul. On ne part pas tout seul avec sa caméra, même si parfois, et surtout dans le documentaire, on peut jouer un peu l'homme ou la femme orchestre et faire le son et l'image, etc. Mais il y a une équipe. Elle a parlé de son équipe de comédiens. Elle va vous en reparler un petit peu plus tard. Vous avez compris, hein, dans le son, on est dans la salle de cinéma. Hein. Mais il y a une équipe de comédiens, de techniciens, parfois des co-auteurs, etc. Et il y a une production et une distribution. Là, sur ce film-là, le film de Judith Davis, il a été très particulier parce que c'est une équipe de théâtre qui ne rencontrait pas tous les suffrages à la lecture et quand elle a voulu défendre le film en termes de financement, on y reviendra un petit peu plus tard. Et du coup, il s'est beaucoup appuyé sur la distributrice qui est UFO. Bon, c'est un petit détail, mais qui n'en est pas un, puisque sans le distributeur, le film ne passe pas en salle de cinéma, hein, où il passe juste une fois de temps en temps parce qu'il y a des bonnes âmes. Je vais vous faire écouter la bande-annonce, je vais d'abord vous faire le pitch quand même, le synopsis du film de Judith Davis, qui est donc « Tout ce qu'il me reste de la Révolution ». On est, je crois, sur la 3e semaine là, à l'Omnia, ce qui est assez rare, c'est un petit film. Et normalement, bah, il y a peu de copies et il est peu diffusé, il est peu projeté. Angèle avait 8 ans quand s'ouvrait le premier McDonald's de Berlin-Est. Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération, être née trop tard, à l'heure de la déprime politique mondiale. Elle vient d'une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique pour déménager. Seule, à la campagne et sa sœur a choisi le monde de l'entreprise. Seul son père, ancien maoïste, chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s'applique autant à essayer de changer le monde qu'à fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire? Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre. On écoute la bande-annonce.
Au jour d'aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est en ce moment, et c'est très clair, on peut pas se permettre de garder un deuxième salarié. Je suis vraiment désolée.
C'est le monde qui est comme ça.
Tu sais ce qu'elle te dit, la génération Prozac ?
Nous, à notre époque, c'était différent. C'est vrai que vous avez pas de chance.
Ça ! Je vais adopter le style de la maison, hein ? Je retourne ma veste, et voilà !
Angèle, on se détend là.
Virer du jour au lendemain par des patrons de gauche, ça s'appelle des raisons concrètes d'être en colère. Je suis en train de faire une déprime, parce que j'ai pas mis d'après-shampoing.
Monsieur, la dame, elle a fait un zizi sur la banque.
En fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi. De toute façon, c'est à peu près la même idée générale, enfin, les doigts, les zizi.
Tu sais que ça va être l'anniversaire de maman. Je crois qu'elle aimerait te voir.
Et ma mère, elle a abandonné son combat politique. Elle est partie du jour au lendemain, elle a trahi, elle a tout quitté.
Ta mère, elle a peut-être juste ouvert les yeux. Réaliser que le monde était absurde, que la vie était absurde.
Pourquoi on vit comme on vit? Pourquoi on fait certains choix?
Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais tu grandis un peu, Angèle.
C'est dingue, on peut plus la poser la question du pourquoi.
Ben non, on peut plus la poser.
Et pourquoi?
Je pensais que t'étais quelqu'un qui avait pas peur de s'engager.
Bah, elle m'a proposé qu'on s'installe ensemble, mais la vie à deux, là, j'ai pas le temps.
Je me vois encore, je devais avoir 13 ans, et je dis à mon père que mon rêve, c'est d'inventer des idées pour changer le monde. Mais c'est difficile de passer de la théorie à la pratique.
Ça m'arrive souvent de rêver que je suis nazie. Enfin, pas forcément nazie et directement, mais que...
Emmanuel est dentiste.
Ouais.
C'est un vrai plaisir d'entendre cette bande-annonce et de me replonger dans l'univers dans lequel elle nous a invités pendant la projection de son film. C'est effectivement, on dit souvent que pour vendre un film, en fait, il y a les producteurs qui achètent et puis qui pensent déjà au public. Et les producteurs ont des critères. Et notamment, parmi les critères, c'est « Ah non, 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 là, le personnage est trop en colère et les gens, le public, n'aiment pas les personnages en colère. » Alors, est-ce qu'elle est en colère? Oui, elle est en colère, mais elle n'est pas qu'en colère, elle a une fraîcheur, c'est aussi parce qu'elle est jeune. Et donc, c'est tout à fait recevable. Elle a une énergie incroyable, elle va défendre des idéaux à tout craint. Puis, elle va surtout nous montrer que les idéaux que nos parents, ou pour certains d'ailleurs, nos grands-parents défendaient, non seulement ils se sont assis dessus, mais ils les ont tournés, détournés, retournés et essorés pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir maintenant se servir un petit voluto et comme elle le dit elle-même, un petit voluto avec une petite sucrète et puis et utiliser tous les contrats aidés pour ne surtout pas dépenser trop d'argent et pour ne pas en perdre, en fait, surtout. C'est très intéressant, c'est quelle société a été fondée quand on part du principe que nous faisons le monde dans lequel nous sommes, c'est vrai qu'en plus aujourd'hui ça résonne quoi, dans l'actualité. Voilà. Le film, elle l'a créé je n'ai pas demandé, mais en fait elle a mis du temps à l'écrire, elle nous en parle, nos amis, ça faisait quelques années qu'elle est d'abord passée par le théâtre et par plusieurs créations théâtrales pour arriver à ça. Parce qu'un film de cinéma, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a toute une réflexion derrière, il y a tout un travail d'écriture et tout un travail enrichissant, bien sûr, de rencontres, etc. D'ailleurs, on lui a posé la question, justement, des financements.
Est-ce que d'un seul coup, quand le théâtre, on va parler comme ça, voilà, on ne sont pas le théâtre, je sais pas, 25 ans, 50 ans, femme, voilà, je crois que par dessin, jeune, encore moins, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme problème? Ah ben non, le gros problème, c'est que c'était ni une comédie, ni un drame familial, ni une comédie sociale, ni une comédie romantique, puisque c'était tout ça à la fois. Donc en fait, on pensait que c'était pas voulu, comme on me demande souvent si c'est voulu. Tout est voulu. Évidemment que ce que je vous disais tout à l'heure, la réalité est tellement sur plein de fronts à la fois, et on doit tellement faire le grand écart entre tout, que je me suis dit, je vais en profiter pour être libre dans la forme et proposer quelque chose de protéiforme. En fait, puisque c'est ça, je peux pas être dans une idéologie, je peux pas aujourd'hui être faire un film partisan, puisque on est après 90. Donc j'ai essayé de créer quelque chose de chimérique, en fait. Mais ça, c'est comme ça rentre pas dans la case, et que la case, c'est le principe de rentabilité qui peut évaluer le poids, en fait, le prix Et du coup, comme ça rentrait pas dans la case, bon, etc., on m'a beaucoup reproché tout. Donc je n'ai eu aucun argent du tout.
Et ben, résultat génial,
sauf,
avec une énergie.
Sauf UFO, qui est représenté par Claire, qui est là.
Ah oui, Claire qui est là.
Qui est la distribution oui. qui assure le scénario.
Cherche...
Je voulais revenir sur deux, trois éléments qu'elle a cités. Être une femme, être une jeune femme sont évidemment des handicaps pour faire du cinéma, c'est clair, encore aujourd'hui. Et puis venir du monde du théâtre aussi, alors ne pas faire un film partisan puisque ça n'a plus tellement de sens et puis que c'est intéressant de raconter les choses autrement, ça aussi, ça s'entend. Et le temps qu'elle utilisait, le rapport au temps qu'elle a, parce que faire du cinéma, c'est aussi ça, c'est ne pas être dans l'immédiateté de la télévision. Oui, on prend parti, il y a toujours un parti pris de la part de l'auteur, heureusement, sans être forcément partisan. Alors là aussi, c'est intéressant, parce que je pense que ça fait écho au film de Michael Moore, qui sont partisans. Il y va, il défend son idée. Finalement, même Vice, je ne sais pas si vous avez eu la chance, et si vous ne l'avez pas encore eu, allez-y, d'aller voir Vice de McKay, Adam McKay, avec, sur l'histoire de Dick Cheney, le vice-président des États-Unis pendant Bush. Bush fils, c'est vachement intéressant parce que le film est partisan et le film, mais il y a un rapport au... le cinéma a un rapport à l'image, à la construction de l'histoire qui nous emmène dans quelque chose qui est loin de la télévision. Et même si le montage, là on est opposé, hein, si j'oppose Vice et que j'oppose je l'oppose à tout ce qu'il me reste de la Révolution, tout ce qu'il me reste de la Révolution, elle va faire des scènes qui peuvent durer 10 minutes. Comme ça, écrit sur le papier, on se dit « Waouh, c'est impensable, ça va pas tenir ». Et en fait, ça tient très bien, puisqu'on le vit, on est avec eux, parce que c'est plein. Vice, il a un montage démonté, surmonté et survolté. On est à la limite du montage télé, on est presque dans Fox News, surtout quand on n'est pas bilingue comme moi et qu'on lit les sous-titres. Donc, mais avec toutes les informations qui viennent partout, on est dans un truc télé, mais... dans un rapport au temps qui est quand même différent. Ça, je crois que c'est essentiel. Et que peut-être le rapport au temps que notre petite, pardon, mademoiselle Judith Davis a dans son film, c'est peut-être quelque chose qui lui vient du théâtre. Elle nous raconte qu'elle vient du théâtre.
C'est vraiment un travail d'écriture collective. On est acteur au départ et on est devenu auteur. Et c'était déjà en fait une façon de... Donc, le travail de théâtre est collectif. C'est tous nos spectacles, on en a fait quatre jusqu'à présent, c'est l'écriture collective. Et le film, c'est moi qui l'ai écrit en parallèle. Mais c'est vraiment très très lié, c'est vraiment un projet jumeau, je dirais. Parce que le travail de théâtre, c'est vraiment une manière de faire corps avec qui on est dans la vie et d'essayer de trouver une cohérence, enfin un espace de cohérence entre ce qu'on pense, entre ce qu'on cherche et l'endroit où on travaille. Pour nous, ça s'est traduit par le fait de créer un collectif, c'est-à-dire pas d'hiérarchie. Ce qui est compliqué, ça a des vraies conséquences de travailler sans chef. Il y a quelque chose de violent, mais aussi quelque chose de confortable dans la hiérarchie, bien sûr. Là, on partage la décision, on partage la parole. Voilà, on ressemble un peu au collectif que vous avez vu.
Ça génère de l'énergie, énormément d'énergie.
Ça génère de l'énergie, ouais. Ça génère aussi du temps. En fait, c'est force. Il y a beaucoup d'énergie et beaucoup. C'est très galvanisant de se battre ensemble pour quelque chose de commun. C'est quelque chose d'incroyable, en fait. Mais c'est aussi une force d'inertie, pas de leadership, c'est-à-dire qu'on met du temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas efficace au sens contemporain de être efficace, on n'a pas d'actu au sens de c'est quoi ton actu. Non, en fait, on est là, on est à contre-courant, en fait. Et le premier spectacle, je parle beaucoup un peu comme Angèle.
Non, mais c'est bien.
Je n'ai pas beaucoup de points, mais
on aime ça,
je m'en excuse en avance.
Au contraire.
En fait, le spectacle, notre premier spectacle, il y a 12 ans, 10 ans, et ben, l'engagement politique, c'est devenu le thème de notre premier spectacle, comme quelque chose d'inaugural. Et à la lumière de 68, parce qu'il y avait Simon dans le lot, si je peux m'exprimer ainsi.
Qui est le plus vieux,
qui avait 18 ans en 68. Ah, ouais. Et comme l'idée n'était pas du tout d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit d'objectif, ou de pseudo-objectif, ou d'historique, ou que sais-je, de commémoratif, encore moins, sur des événements passés, mais bien au contraire de partir de nos questions intimes, réelles, sincères en fait, singulières sur ces sujets-là, on est parti de nous. Et moi, je n'étais pas du tout contente, parce que parler de l'engagement politique à la lumière de 68, moi je voulais parler de l'engagement politique à la lumière d'aujourd'hui.
Des années 2000, mais c'est ce que tu fais.
En fait, du coup, c'est ce que j'ai défendu dans la pièce, et je me suis rendu compte que déjà le fait de pouvoir le faire, ça m'a libérée. Notre pièce n'était pas le lieu d'un consensus, mais au contraire, tout le monde pouvait dire son avis. Je me suis rendu compte que j'en avais pas fini avec cette histoire-là et que j'avais en plus envie d'en faire un film. Voilà,
comme elle le dit. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est très engagée, en fait. Faire un film et traiter de politique ou faire un film qui serait dans une case film politique, cinéma et politique, c'est bien ça, être engagé. Et d'où ça vient? Ça vient d'abord d'ailleurs. Je pense à tous ces films. Encore une fois, je reviens sur Vice exprès, puisqu'il est à l'affiche. Et je reviens aussi sur Green Book, qui est une écriture complètement différente, extrêmement classique. Mais je vous ai fait écouter la bande-annonce la dernière fois. Et pareil, là, c'est du beau, c'est du pur, c'est du bon. On est dans la vie des deux personnages. Et on est dans le racisme et la lutte contre les discriminations. Et en fait, et comment quelqu'un de raciste se rend compte que c'est complètement idiot, et comment il va défendre une personne qui, a priori, au départ, n'est pas son ami, puisqu'il est noir. Voilà, c'est aussi bête que ça. Là, c'est une façon de nous raconter une histoire de manière très linéaire. On part d'un livre. Donc, dans un livre, on raconte une histoire. Voilà. Et la forme narrative théâtrale n'est pas tout à fait la même. Et on vient d'entendre aussi le mode de fabrication, le mode de conception de la troupe dont Judith Davis fait partie. Et donc, les raisons pour lesquelles elle a fait ce film-là. Mais le film, qui est vraiment, j'insiste, très frais, le film Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, est, tout ce qu'il me reste d'ailleurs, est vraiment un récit qui reste assez linéaire. Et pourtant très engagé, très politique, notamment à travers tous les questionnements que traverse justement le personnage principal. L'une des questions qu'elle s'est posée, là on vient de l'entendre, c'était comment s'écouter les uns les autres, il n'y a pas de leadership, et qu'est-ce qu'on a envie de dire, et aussi comment retranscrire une partie de l'histoire sans être trop partisan forcément, et sans être historique et redonner une forme chronologique et puis et donner du sens. Elle pose la question du fait de faire corps avec son temps.
La géométrie du monde a basculé au début des années 90 complètement. Et moi, c'est mon histoire, mon identité vient de là aussi. Et je trouve ça... Je ne sais pas si je m'en étais rendu compte à ce point en écrivant le film, en commençant à l'écrire, mais il y a un nœud en fait, il y a vraiment un nœud en termes de transmission politique, mais aussi de transmission affective. J'ai lu un livre génial, je vous recommande, ça s'appelle La mélancolie de gauche de Enzo Traverso, et il dit à un moment donné, comprendre que je vais m'éloigner de la révolution, c'était m'éloigner de l'enfance, en fait, ça m'a beaucoup touchée, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de ça dans mon film. Sur la transmission et sur la manière et sur la façon dont j'avais besoin de me trouver d'un seul coup de plein pied dans mon époque. Dans une génération qui est peut-être pas vraie sur les gens qui ont aujourd'hui 25 et moins, mais vraiment être né juste à ce moment-là, avoir entendu toute sa vie qu'on n'était pas né au bon moment, qu'on était trop tard, et que c'est dommage, et qu'à l'époque, et qu'il y avait cet engagement à portée de main, il suffisait d'endosser une cause, et ça y était, pour n'importe qui a un tout petit peu conscience de ce qui se passe, qui a un tout petit peu envie d'en faire partie, quoi, qui a un tout petit peu envie de faire société, mais bon sang, mais pourquoi je suis... En fait, c'est toute son histoire, c'est d'un seul coup que sa quête politique, parce qu'elle devient une quête personnelle, pour redevenir une quête politique. C'est simplement accepter d'être de plein pied dans son époque. Comment? En voyant que ce qui se joue aujourd'hui, c'est la situation des Stéphane et des Loutka. C'est arrêter de les voir dans leur cliché de sœurs et de beaux-frères quand on met leur veste en barre, dans son entreprise, le beau-frère de droite, on fait la mauvaise soirée à Noël, tout le monde s'engueule, c'est qu'à vérité. C'est pas possible en fait de rester dans ce cliché-là, et c'est pour ça qu'il s'autodétruit et que c'est pas Angèle qui lui dit c'est qu'à vérité, comme on pourrait s'y attendre dans une écriture. Voilà, quelque chose un peu plus classique. Mais bien au contraire, parler d'aujourd'hui, c'est regarder ça en face. Voilà.
J'étais en train de me dire que dans Silence, on prend la parole et qu'effectivement, je vois le temps tourner. Je sais que je n'aurai pas le temps, pas assez de temps. Et pourtant, je n'ai pas encore eu mon rendez-vous avec Ruffin, François Ruffin. Mais je n'aurai pas assez de temps pour vous parler de son film qui sort le 3 avril, qui s'appelle Je veux du soleil et qui nous parle des Gilets jaunes. Et c'est tellement différent. Et là, pour le coup, la limite entre le film partisan, le film même, j'ai envie de dire, limite hyper-dogmatique, du coup, même presque limite propagande. Le film qui n'a pas pris son temps, le film qui est trop dedans, le film qui prend trop parti. Et puis, le film que nous propose Judith Davis est tellement opposé et tellement différent, c'est vraiment... Et pourtant, l'engagement, quand on les entend tous les deux, c'est la même chose, la même énergie. Notamment Judith Davis, vous entendez là. Alors heureusement, le film est plus calme. Hein. Il n'est pas que comme ça, tendu. Je voulais repartir, parce qu'en fait, ça a été dit, justement, ça a été évoqué, dans le film et dans la salle. Je voulais repartir sur le film et sur notamment cette première scène qu'on entend dans la bande-annonce où elle se fait gentiment remercier parce qu'ils ne peuvent pas payer les charges qu'ils préfèrent appeler cotisations.
Tu nous emmènes directement dans le film avec cette scène de licenciement qui est ultra drôle, la manière dont tu la filmes, ultra, à la fois aussi ultra violente parce que tu dis que apparemment c'est censé être des patrons de gauche.
Mais tranquille, enfin, je veux dire.
Normal.
Je lui en veux pas plus que ça. C'est pas voilà. Vincent qui a son col Mao que j'ai même pas boutonné. Je me dis, j'ai trouvé une chemise avec un col Mao. Le cas à mon père, en vrai, dans la vraie vie, beaucoup plus de gabarit que Jean-Claude Le Guay qui joue Vincent. Donc la chemise était un peu grande. Donc on lui a laissé le col ouvert et je vois en toutes mes rages, c'est pas possible, j'ai mis un col Mao, j'ai même pas fermé le col pour me passer un col Mao. Non mais pour moi c'est important, mais c'est pas grave, je comprends quand même qu'il y a eu des problèmes de veste et de chemise dans sa vie. Oui, non mais l'idée c'est pas du tout de
pas stigmatiser.
Non, évidemment, il y a tellement, enfin j'avais à cœur vraiment de proposer une galerie de personnages vraiment complexes, que chacun puisse incarner aussi les dilemmes de notre vie. Personne ne représente la bonne façon de faire, ni la mère, ni Vincent qui croit toujours qu'il ne faut pas dire les charges, les cotisations, parce que ça correspond à une vision de la société, et que si on dit charge, et ben c'est tout de suite péjoratif, alors que quand même, cotiser, c'est pas de la merde. Mais bon, sauf qu'il est assis sur ses culs, et qu'il boit du Voluto avec sa sucrète, quoi. Et c'est pas grave, mais je veux dire, je n'en veux pas plus que ça. Non, mais je veux dire, le film n'est pas un procès. L'idée n'est pas de faire le procès de quoi que ce soit, en fait. Ça fait aussi partie de ce qu'on se prend dans la figure depuis aussi pour avoir le boulot, pour pouvoir s'exprimer.
Bien sûr.
Il y a une confiscation de la parole. Je veux dire, en mai 2018, on a un mouvement social de grande ampleur. Les seuls qui ont pignon sur rue et voix à tout, c'est Romain Goupil et Cohn Bendit. Non, mais. Je dis pas qu'il faut pas dialoguer ensemble, mais dans dialoguer ensemble, il y a ensemble. Et en fait, il y a personne en face, parce que la parole officielle, c'est celle-là.
Ce qu'il y a vraiment, ce qu'on entend et qui reste, c'est son énergie, son engagement. Vous le voyez bien, hein, elle est à fond. Et en même temps, elle mesure, elle pondère énormément. Ce n'est pas à charge. Tous les personnages, et ça c'est intéressant aussi, tous les personnages qu'elle rencontre sont des personnages qui, à un moment donné, sont touchants, sont aimable. Même, donc elle a beau mettre une claque à ses employeurs, ben mine de rien, elle le fait parce qu'elle est en colère et elle ne nous oblige pas, nous spectateurs, à les détester. Elle nous montre juste un truc en disant, bah, tiens, c'est curieux quand même. Et c'est vraiment très intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que faire du cinéma, c'est pas seulement parler de personnages et puis parler d'histoire et dénoncer des faits, c'est aussi tout un environnement, et elle parle très bien, d'un accessoire, et de l'accessoire de la chemise au col Mao, parce que c'est pas très facile à trouver, et que pour qu'on reconnaisse que c'est un col Mao, ben en effet, il lui fallu qu'elle la boutonne, sauf que prise dans son énergie, elle a dû oublier de le faire boutonner, puisqu'elle n'était pas à la bonne taille pour le comédien. Bref, faire un film, c'est vraiment penser aussi à tout ça, parce que tout raconte. C'est intéressant souvent de voir que les images dans un film de cinéma, vraiment je fais exprès, hein, les images dans un film de cinéma sont reconstruites, elles racontent quelque chose et très souvent, si on prend un peu de recul, c'est une image qui ne peut pas exister dans la réalité. Le metteur en scène, le réalisateur, son rôle, ça va être aussi ça, souvent avec son directeur photo, de reconstruire une image pour qu'on ait une image photographique, esthétique, mais pas seulement, c'est parce que l'image véhicule quelque chose. Faire du cinéma, c'est un peu tout ça à la fois, quoi. Et puis, évidemment, ne pas tomber dans les écueils, comme elle va nous le dire. On va écouter Judith Davis nous parler de ses personnages, de la construction de ses personnages, surtout dans des films comme ça, qui sont, mine de rien, partisans sans lettres, c'est-à-dire qu'elle a un parti pris très fort de départ, elle a une idée très forte et une idée politique à défendre. Mais pour ne pas nous couper le souffle, justement, puisque ça me coupe le mien, pour ne pas nous couper le souffle, il faut bien qu'elle soit un petit peu plus dans les rondeurs. Et là aussi, je vous parle de Weiss juste après, j'ai encore un tout petit peu de temps, mais là aussi c'est intéressant de voir comment montrer son personnage principal et comment montrer ses personnages et qu'est-ce qui va nous en rester. En tous les cas, on l'écoute, elle, nous parler de l'écueil, des écueils de l'écriture.
Il n'y a que des écueils en fait, en termes d'écriture, il n'y a que des écueils. Évidemment qu'on est à deux doigts d'être naïf tout le temps, qu'il faut déjouer ça. Évidemment qu'on est à deux doigts d'être gentil contre les méchants tout le temps. C'est vraiment un slalom par rapport, et surtout dans l'écriture des personnages, c'est pour ça que c'est Stéphane qui se révèle à lui-même seul et que c'est pas quelqu'un qui lui sait qu'à vérité, qui aurait raison. Et en fait, même sur le destin politique, en fait, on est tellement dans l'attente que la fin va nous délivrer ce qu'il faut en penser, in fine, parce qu'en fait, donc je sens bien qu'il y a une attente, ou en tout cas quelque chose qui se dessine dans le regard du spectateur, qui va vers les retrouvailles de la mère et la fille sur un plan intime et personnel, voire psychologique. Et en fait, depuis le début, je cherchais à déjouer ça pour que tout redevienne en fait politique, mais dans un mouvement sans cesse de va-et-vient entre nous comme personnes et nous comme citoyens. En fait, là, en ce moment, on est tous perdants. Le système, il est vraiment en train de fabriquer, à part 2% de gens qui savent très bien quels intérêts classe ils sont en train de défendre, quelle idéologie ils sont en train de diffuser partout avec une application extrêmement précise de normes de travail, de vocabulaire, enfin, c'est très organisé. Vraiment, ça va très loin, la majorité de gens qui sont perdants dans ce système, y compris Stéphane, y compris Kahn. Vraiment, cette métaphore de « on doit tous se mettre autour de la même table », voilà, c'était vachement important pour moi dans le film, quoi. Même si, après, il y a le happy end auquel je tenais pour le plaisir. Ah non, c'est bien, c'est important, le plaisir, il n'y en a pas beaucoup, quoi.
Le plaisir est important. Faire du cinéma, c'est raconter une histoire et c'est raconter comment, et évidemment prendre du plaisir à regarder, à partager cette histoire-là, c'est indispensable. Alors je reviens sur, parce qu'il faut que je vous pitche le synopsis, si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir Vice, je ne peux que vous encourager à y aller, parce que Christian Bale est fabuleux, parce que la réalisation et le montage d'Adam McKay est assez extraordinaire, assez époustouflant. Il jongle, et là je fais mon petit pas de côté sur l'outil cinéma, l'outil audiovisuel, il jongle sur les codes de la télévision, et c'est un tel point, en fait c'est une fiction, hein, c'est un biopic, inspiré de plus que de faits réels, ça c'est clair, mais on est à la limite du documentaire. Et c'est intéressant comme des fois d'ailleurs on peut avoir un documentaire qui utilise les codes de la fiction et du coup qui nous déroute parce qu'on a l'impression d'être plongé dans une fiction où le réel perd pied. Pour aller toucher autre chose, bien sûr, hein, parce qu'on va plus dans l'émotion. La Vice, en fait, c'est l'inverse. Voilà, les deux films sont opposés. Et le troisième, qui est vraiment, je vous ferai une émission entière probablement, sur le film de François Ruffin et Gilles Perret. J'oublie trop qu'il y a aussi le documentariste cinéaste Gilles Perret qui a collaboré là, dans l'urgence, puisque le film sort le 3 avril. Moi, je l'ai vu hier, puisqu'il est en avant-première, vendredi à l'Omnia, les deux salles sont pleines, hein, donc c'est pas la peine d'essayer de trouver vos places, mais les trois films que je vous cite là sont des façons complètement différentes, et il y a encore d'autres moyens, évidemment, je vous ai cité Green Book également, qui va peut-être se rapprocher du film de Judith Davis, des façons différentes de prendre part à la vie politique, de nous parler de politique, d'être un peu, évidemment, quelque part politique, mais en même temps, qu'est-ce que c'est que le cinéma, et comment est-ce qu'on aborde la question du cinéma ? Le pitch sur Vice. Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi sans faire de bruit à se faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd'hui. Voilà, dit comme ça, c'est extrêmement simple. En gros, c'est un film sur Dick Cheney avec un Christian Bale extraordinaire et méconnaissable. Et on est dans des codes à moitié télé, à moitié documentaire, à moitié... Ça va vite, ça... Et en même temps, il déconstruit l'histoire, il la reconstruit. Parfois, il nous laisse suspendus à un suspense. Et parce qu'évidemment, il passe en revue des moments maintenant historiques, comme notamment le World Trade Center, quoi. Évidemment, c'était cette époque-là. Alors après, raconter l'histoire quand on est encore dedans, ce n'est pas encore de l'histoire. Et Je veux du soleil nous parle des gilets jaunes. Juste un petit clin d'œil, parce que je ne voudrais pas faire une émission et finir mon émission à décharge. J'ai hâte de rencontrer le duo Ruffin-Perret, mais un petit clin d'œil, on va vous passer. Merci Nico d'ailleurs de ton conseil. On va vous passer Honeymoon Killer, qui nous fait une proposition de National 7. Et quand vous aurez la possibilité de voir Je veux du soleil, vous comprendrez pourquoi. Je vous souhaite une bonne journée cinéma et surtout profitez-en, allez dans Salle Obscure et à très bientôt.
De toute la route de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit. En auto ou en auto-stop. Vers le rivage du midi.
final.
7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une heure qui fait recette. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait Paris un petit faubourg de Valence. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence.
Mais j'ai l'été rempli mon cœur sa lucidité. Je fais des gloves et les acidités qui font le malheur à la quantité. Tout excité.
On chante en fête. Les oliviers semblent ma petite Lisette. L'amour et la joyeux qui fait risette. On est heureux national 7.
En fait, les oliviers semblent ma petite Lisette. L'amour est la joyeux qui fait risette. On est heureux national 7. On est heureux national 7. On est heureux national 7.
On est heureux national 7. On est heureux national 7.
On est heureux national 7.
On est heureux national 7.
On est heureux national 7.
On est heureux national 7.
On est heureux national 7.
On est heureux national 7. Heureux national 7.